Julien Damon, bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po et HEC. Vous publiez « Toilettes publiques, essai sur les commodités urbaines » aux presses de Sciences Po. Vous y abordez un sujet qui concerne tout le monde, mais dont on parle finalement peu.
Ah, ça, c'est sûr que ça concerne tout le monde et tous les jours. Le sujet, ce sont nos excrétions et la façon de les gérer. Si on en parle assez peu, c'est parce que c'est certainement dans les pays riches, en tout cas, couvert d'un voile de pudeur que l'on peut comprendre, mais qui est assez problématique parce que c'est un sujet préoccupant.
En 2023, tout le monde n'a pas accès à des toilettes.
Si on regarde le monde entier, vous avez des centaines de millions de personnes qui n'ont accès à strictement rien. Vous avez une petite majorité seulement de la population sur Terre qui a accès à un système d'assainissement sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contact entre les eaux usées et les êtres humains, ce qui est problématique parce que vous avez des centaines d'enfants qui meurent chaque jour en raison de ces contacts avec les eaux usées. Et si on regarde les pays riches, où le problème ne se pose pas avec la même intensité, vous avez dans les grandes villes des pays riches des problèmes de plus en plus marquants au sujet des sans-abri, qui par nature, par construction plutôt, n'ont pas accès à des toilettes privatives. Et comme nous sommes de plus en plus mobiles et de plus en plus âgés, nous sommes de plus en plus concernés.
Dans les villes, il y a, entre hommes et femmes, également des inégalités.
L'intérêt de ce sujet des toilettes, c'est que ça révèle toutes les formes d'inégalité, en particulier celle que vous évoquez, et qui est particulièrement visible, qui n'est pas du tout un sujet drôle, qui est un sujet de préoccupation, je trouve, qui devrait être prise avec plus grand sérieux. Vous avez des files d'attente bien plus importantes devant les toilettes pour dames que devant les toilettes pour messieurs. Ceci s'explique par des différences naturelles, mais aussi et surtout peut-être maintenant parce que l'offre n'est pas adaptée. Il devrait y avoir plus de place pour les dames que pour les messieurs. Ou alors, autre option, on devrait aller vers des toilettes totalement mixtes.
Vous dites que ça s'explique? En quelques mots, une femme met plus longtemps...
Ah, une femme met plus longtemps parce qu'elle doit se déshabiller plus complètement. C'est beaucoup plus aisé pour un monsieur que d'avoir simplement à dézipper sa braguette, si on est très concret. Une femme a dans son existence des temps singuliers, mensuellement les menstruations. Elle a des temps aussi de grossesse qui la conduisent à passer davantage de temps aux toilettes. Et puis surtout, ces files d'attente s'expliquent tout simplement parce que les toilettes pour dames sont des édifices simplement constitués d'endroits où on doit s'asseoir, s'accroupir, être en squat, ce que vous choisissez. Et les toilettes pour messieurs disposent des urinoirs. Et les urinoirs, ça va beaucoup plus vite. Donc si vous mettez le même nombre de mètres carrés de toilettes pour dames et de mètres carrés pour messieurs, de toutes les façons, l'offre est inégale et en défaveur des femmes.
Cela montre aussi que ce sont les hommes qui ont conçu ce système de toilettes.
Oui, alors pas toutes les toilettes, parce que les toilettes privées, en réalité, d'abord, sont très généralement mixtes, sauf dans des cas vraiment très singuliers chez soi. Et c'est vrai que pour l'espace public des villes contemporaines, c'est un espace public qui a été construit par les hommes, principalement pour des hommes.
Votre livre s'intéresse à l'histoire des toilettes publiques qui remonte aux cités antiques. Pendant longtemps, on s'est débarrassé des excrétions humaines avec un pot de chambre ou une chaise percée, si on était le roi. Et en gros, on jette tout cela pas très loin, finalement, et même parfois par la fenêtre.
Alors, en effet, dans les villes occidentales, ou au Moyen-Âge alors, vous avez cette unique solution qui consiste à récupérer ce qu'on a fait dans la soirée ou dans la journée dans des pots de chambre et à le jeter par la fenêtre. Hein, et ça tombe dans les égouts. Alors on prévenait, dit-on, il n'y a pas d'enregistrement. Hein, le cri était, semble-t-il, allô, allô, vous voyez, c'était avant la téléphonie. Et vous aviez des excréments qui jonchaient les sols et qui donnaient des odeurs nauséabondes qui pouvaient moins préoccuper qu'aujourd'hui, et des difficultés sanitaires avec des contagions liées en particulier au choléra. Alors vous avez auparavant, dans la Rome antique, des systèmes un rien plus élaborés de récupération des urines, parce que ça permettait aux tanneurs de tanner le cuir. Ça permettait à l'empereur Vespasien, connu essentiellement au sujet des Vespasiennes parisiennes, mais ce qu'il a mis en avant, c'est une taxe sur cette collecte d'urine. Mais le sujet sérieux, c'est que les villes antiques étaient certainement plus en avance, si j'ose dire, par rapport aux villes moyenâgeuses. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'innovation du côté des villes antiques que des villes moyenâgeuses. Ça n'est qu'au 18e, 19e siècle, il y a des révolutions dans les systèmes de toilettes et d'égouts dans les villes occidentales, principalement à Londres et à Paris, pour tenter de remédier aux problématiques de contagion et de graves maladies, je répète, le choléra.
Alors, vous le dites, les égouts au XIXe siècle environ, mais il faut attendre encore très longtemps pour que les lieux d'aisance arrivent dans tous les appartements.
Oui, là, nous évoquons le sujet des toilettes publiques, quand on parle de ce qui passait par la fenêtre et de ce qui pouvait équiper l'espace public en termes de bornes dans lesquelles les messieurs pouvaient s'épancher et les urines être collectées. Il faut avoir à l'esprit qu'en 1945, dans le tout juste après-guerre en France, 80% des logements n'étaient pas équipés en toilettes. Et vous avez une gigantesque transformation qui est l'équipement des logements en France, maisons ou appartements, en toilettes privées. Aujourd'hui, c'est lilliputien la proportion des logements qui ne disposent pas de ces toilettes. Et le point important, c'est qu'à mesure que l'on a équipé l'espace privé, on a déséquipé l'espace public, on a mis fin aux Vespasiennes et aux différents chalets de nécessité, joli terme pour désigner le fait que l'on cherchait aussi à proposer aux messieurs et aux dames des équipements un peu plus confortables que ces seules Vespasiennes.
Pourquoi est-ce qu'on les a enlevés ?
On les a enlevés, alors il y a des raisons qui vont jusque devant des cours importantes, le Conseil d'État s'était prononcé sur ces sujets, parce que c'était inesthétique, jugé inesthétique, et aussi pour un sujet de mœurs, parce que l'on considérait que c'était des lieux de rendez-vous problématiques pour des amours particulières, notamment entre messieurs. Donc, ça a disparu pour pas mal de raisons. La première de ces raisons, c'est même parce qu'on a équipé l'espace privé et qu'on pensait ne plus en avoir besoin dans l'espace public. La deuxième, c'est que les édiles, les élus, trouvaient pas ça très joli. Et la troisième, que l'on pourrait mettre en priorité si on en faisait la hiérarchie de ces raisons, c'est que, en effet, c'était considéré comme des outrages aux bonnes mœurs.
Alors c'est vrai qu'on a installé depuis des sanisettes. Ça a cette particularité de devoir à la fois répondre aux besoins des SDF dont vous parliez tout à l'heure, mais parfois des gens qui travaillent sur un chantier ou bien même des touristes. Et là, on a des niveaux d'accueil de qualité différentes, on va dire. On n'a pas les mêmes besoins.
Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les sanisettes qui sont avec un copyright, c'est une invention d'un industriel français original, Jean-Claude Decaux, c'est une sorte de révolution dans le mobilier urbain et dans le mobilier sanitaire urbain, avec une égalité d'accès pour les hommes et les femmes et avec une qualité d'hygiène de très haut niveau. C'est-à-dire que vous avez un système de nettoyage automatique, posant d'ailleurs par la suite des problèmes écologiques parce qu'on y utilise beaucoup d'eau. Mais passons pour le moment. Ce qui est exact, c'est que comme on avait considéré qu'on n'avait plus besoin des Vespasiennes ou autres, et comme on a implanté quelques sanisettes, on pensait avoir réglé le problème, mais nous sommes tous de plus en plus mobiles. Les femmes ont accès désormais à l'espace public. Ce n'était pas le cas au XVIIIe et au XIXe siècle. Ça ne se faisait pas trop, ce qui explique pourquoi il y avait peu d'équipements sanitaires pour les dames. Vous avez des professions qui sont de plus en plus importantes en nombre, qui sont des professions mobiles, taxi, VTC, livreur. Vous avez tout simplement le fait que nous tous, nous sommes de plus en plus dans l'espace public, il y a de plus en plus de passants, il y a de plus en plus de touristes. Alors il y a des besoins qui ne sont pas forcément si différenciés, ce sont des besoins assez basiques de tout le monde. L'offre est très différenciée selon que se trouve dans des zones touristiques, dans une gare, où les toilettes ne sont pas souvent gratuite, pas forcément toujours de haute tenue, hein, ou que l'on se trouve sur des chantiers. Mais sur les chantiers, le sujet est autre, il relève du droit du travail, c'est-à-dire que là où nous nous trouvons, par exemple dans les studios de RFI, vous avez obligatoirement, sinon tournez-vous vers vos représentants syndicaux et vers l'inspection du travail, des toilettes en nombre et en qualité tout à fait suffisante. Et c'est la même chose pour les chantiers. En théorie, sur les chantiers, en droit, sur les chantiers, vous avez des obligations du maître d'œuvre, en tout cas de l'entreprise qui réalise ce chantier, de proposer des toilettes aux personnes, hommes et femmes, qui réalisent ce chantier. Alors, ce n'est pas toujours fait dans des conditions formidables.
Et pour toutes ces professions mobiles, on a vu pendant le Covid que finalement, on a besoin des bars et des restaurants pour les besoins pressants.
Alors, l'expérience du Covid a été une expérience formidable du point de vue de ces affaires de toilettes parce que ça a démontré quelque chose de simple. C'est-à-dire que lorsque les sanisettes et autres offres de toilettes publiques pouvaient rester ouvertes, eh bien, on observait des files d'attente considérables de dames et de messieurs. Cette fois-ci, pour une bonne et simple raison que vous avez évoquée dans votre question, c'est que les bars et restaurants, eux, étaient fermés. Les principales commodités urbaines, les principales toilettes publiques dans les villes, ce sont les bars et restaurants où nous avons les uns les autres nos habitudes, soit parce que nous en connaissons l'établissement, soit parce que nous savons que si on prend un café, on peut aussi demander à passer par les toilettes.
En général, pour l'évacuation, vous l'avez dit, en ce moment, on utilise beaucoup d'eau et cela ne correspond plus aux préoccupations actuelles de gestion des ressources de la planète. Les toilettes sèches, c'est anecdotique ou c'est amené à se développer ?
Alors, ça n'a strictement rien d'anecdotique. Si on regarde la planète, il n'est pas du tout forcé que pour que l'humanité entière accède à des toilettes de qualité, de passer par les systèmes d'égouts tels qu'on les a développés avec ces gigantesques réseaux, ces formidables infrastructures au XIXe siècle en particulier. On peut passer par de tout autres modèles et en particulier par ces systèmes de toilettes sèches généralisés, qui sont moins généralisables dans des bâtiments et des villes où nous avons de tout autres habitudes et de tout autre équipement. Parce que concrètement, des toilettes sèches dans un appartement en France, ça correspond au retour du pot de chambre. Il faut quand même avoir ça exactement à l'esprit, certes de façon modernisée. Ceci dit, ça peut s'organiser et vous avez des expériences, même en France, même dans des immeubles, pour développer ces systèmes de toilettes plus favorables à l'écologie.
En l'an 2000, 1,3 milliard d'êtres humains déféquaient en plein air. Cela a été, il y a eu des avancées ces dernières années à ce sujet. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à cet objectif de toilettes pour tous en 2030 ?
Alors, les objectifs de développement durable sont les objectifs de l'ONU, les objectifs de la communauté internationale, comptent parmi les 17 objectifs, un objectif qui porte sur l'eau et l'assainissement et un sous-objectif qui porte sur la fin de la défécation à ciel ouvert. C'est le terme quasi-scientifique ou le terme politique. Il est vrai que depuis 2000, nous avons des progrès considérables, même si vous avez près de 10% de l'humanité encore qui est condamnée à ces solutions indignes et dangereuses. Et vous avez de grands pays, Inde et Chine au premier rang, qui ont fait des investissements considérables et qui ont permis ces progrès statistiques de l'humanité. À l'horizon 2030, qui est l'horizon de ces objectifs de développement durable, il restera, bien entendu, et bien évidemment, hélas, encore des centaines de millions de personnes qui sont dans ces situations. Ceci dit, il faut regarder les progrès qui ont été réalisés sur les dernières décennies et ils ont été objectivement considérables.
Julien Damon, merci. Je rappelle le titre de votre livre « Toilettes publiques » paru aux presses de Sciences Po.